querer, tontos.
Le vendredi, le métal fait son show sur Bac FM. Salut à tous, bienvenue dans l'émission de Check Me Load, votre émission métal qui, eh bien, chaque vendredi vous propose un petit tour d'horizon des sorties du moment. Alors d'habitude, les sorties portent sur le jour même ou les semaines, les quelques semaines d'avant. Là, on va sur un peu plus loin à cause du confinement qui a fait qu'il n'y a pas eu d'émission pendant 2 mois. Donc là, il faut rattraper un peu notre retard. J'ai malgré tout une sortie pour ce 26 juin, c'est le premier groupe que l'on va écouter dans cette émission, et puis sinon pour le reste, eh ben la tendance va être assez heavy metal en fait. Il y aura pas que ça, hein. Il y aura également du black un petit peu plus tard dans l'émission. Je vous présenterai un tout jeune groupe qui a sorti un EP mi-avril, enfin fin avril plutôt, et que j'aurai le plaisir de recevoir en interview la semaine prochaine, donc ça ce sera vers la fin de l'émission, et puis bien sûr on conclura avec la rubrique Sortez Cover qui, comme d'habitude, hein, vous proposera une reprise d'un morceau. Alors un morceau qui est métal ou pas, mais qui est obligatoirement repris version métal, que ce soit du hard rock, du heavy, du new metal, du black metal, du death metal, dans ce que vous voulez, mais qu'il faut qu'il y ait une tendance métal dans la reprise. Ça, ce sera tout à l'heure, d'ici environ 1 heure. Mais pour le moment, eh bien, je vous propose de débuter les hostilités avec la sortie de la semaine. Et elle nous vient des Pays-Bas, puisque c'est le groupe Karakangren qui sort aujourd'hui l'album Frankenstein Stratemontanus. Un titre un petit peu compliqué, mais voilà, on les connaît, hein, les Karakangren, ils aiment bien un petit peu tout ce qui est alambiqué, on va dire. Alors, je vais vous les présenter un petit peu, parce que peut-être que vous ne connaissez pas encore cette formation. Alors, ils sont originaires de Landgraaf, donc aux Pays-Bas. C'est un groupe qui existe depuis 2003. Il a été créé autour de 3 musiciens. Le chanteur multi-instrumentiste Seregor, le clavier Ardek et le batteur Namtar, qui est d'ailleurs parti assez récemment. Donc pour ce qui est du style, on est sur du black metal symphonique, et pour info, eh bien les thèmes abordés par le combo dans les paroles de ces chansons concernent essentiellement les fantômes et les phénomènes paranormaux. Quant au nom de Karakangren, il n'a rien à voir avec le paranormal, puisqu'en fait il fait référence à l'univers de Tolkien. Karakangren, c'est les mâchoires d'acier, ça désigne en effet un passage dans le nord-ouest de Mordor, que les connaisseurs de Tolkien savent certainement situer. Alors moi je suis pas très doué en Tolkien, hein, donc voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet. On va plutôt revenir à Karakangren, le groupe, qui a sorti son premier album Lamendan en 2008, un album qui va connaître un accueil plutôt positif de la part des médias et aussi des amateurs de black metal. Le groupe acquiert donc assez rapidement une belle popularité et va enchaîner avec les albums Days Came Through a Phantom Ship en 2010, Where the Corpse Sing Forever en 2012, This Is No Fairy Tale en 2015 et puis Dance and Loss Amongst the Rotten en 2017, qui est un concept album dans lequel Karakangren nous raconte l'histoire terrifiante d'une jeune fille qui a un petit peu trop joué avec sa planche de Ouija, un disque qui avait d'ailleurs fait forte impression et assis encore plus solidement la réputation de Carrie Condren. Et comme le combo Batav est loin d'avoir terminé de nous surprendre, eh bien le voici qui dégaine aujourd'hui ce magistral Frankenstein Stratomontanus qui nous narre à la sauce Carrie Condren les aventures d'un certain Frankenstein. Alors plus qu'interpréter, les morceaux de ce nouvel album sont carrément incarnés, et au cas où on s'y croirait pas assez, eh bien il y a une multitude d'effets sonores qui viennent agrémenter l'atmosphère qui est déjà bien riche et bien variée de ce nouvel opus, qui se distingue encore une fois par sa production solide, ses arrangements intelligents et minutieux. C'est un album qui est totalement taillé pour le show, Frankenstein Stratomontanus, et je pense qu'il devrait faire un tabac quand il va pouvoir enfin être joué en live. Ce dixième album, c'est un bijou de blague symphonique. On en écoute tout de suite un extrait avec un morceau qui s'appelle Der Vampir von Nuremberg. Voici tout de suite le groupe Carrie Condren. Cara Kangrain sur Back FM avec le morceau Der Vampir von Nürnberg, un extrait du nouvel album Frankensteina Stratemontanus qui paraît aujourd'hui. Alors là, sur ce morceau là on était à la croisée entre Dimmu Borgir et Rammstein, c'était assez marrant. Je trouve qu'il y a un côté presque grand guignol et folklorique hein, dans ce nouvel album de Cara Kangrain. Enfin, on a l'habitude, ils en font toujours un peu des tonnes, et là franchement ils se sont fait plaisir, mais c'est fait plutôt intelligemment. C'est un bon album, je vous le conseille si vous aimez le black metal sympho, c'est à rajouter absolument dans vos playlists. On va se calmer un petit peu maintenant dans cette émission Check Me Load. On va aller sur des sonorités plus heavy metal, plus gentilles, va-t-on dire, et on va aller faire un tour du côté de la Grèce pour retrouver le groupe Firewind qui a sorti le 14 mai eh bien un album tout simplement intitulé Firewind. Alors ça, c'est un groupe qui est né entre Thessalonique en Grèce et Boston aux États-Unis. Vous allez me dire, ça fait quand même une sacrée distance, mais je vais vous expliquer pourquoi. En tout cas, le projet voit le jour en 1998 et il est créé par un guitariste virtuose qu'on connaît bien maintenant qui s'appelle Gus J, qui est originaire de Grèce mais qui a étudié la musique au prestigieux Berklee College of Music de Boston, et c'est là qu'il a rencontré ceux avec qui il va fonder ce groupe Firewind. Mais avant de vous en dire un peu plus sur le combo et puis sur son actu, faut quand même que je précise que Gus J, il est aujourd'hui considéré comme un guitar hero, et il possède quand même un sacré CV, puisque parallèlement à Firewind il s'illustre également aux côtés, enfin il s'est illustré précédemment aux côtés du groupe suédois Dream Evil dont il est un des cofondateurs. Il a participé à différents projets comme par exemple l'album Doomsday Machine de Arch Enemy en 2005, et puis surtout à partir de 2009 il avait été choisi par Ozzy Osbourne pour remplacer Zakk Wylde jusqu'en 2017. Et puis enfin, faut pas l'oublier, Gus G, qui est décidément un hyperactif, s'est également lancé en 2014 dans une carrière solo qui marche plutôt bien. Voilà, ceci étant dit, revenons au groupe Firewind. Donc là on est dans un style heavy metal, plus précisément power metal. Alors il y a un premier album qui s'appelle Between Heaven and Hell en 2002, et c'est un album qui va permettre au groupe de partir à la conquête du Japon, puisque il va être invité par Bob Rock à assurer la première partie de sa tournée. Cet album, plus aussi l'album Burning Earth hein, je crois en 2003 d'ailleurs, c'était pas simplement l'album Between Heaven and Hell, ils avaient défendu ces deux albums là au Japon. Ensuite il va y avoir Allegiance en 2004, et là Firewind, et ben cette fois-ci, va partir à la conquête du monde puisqu'il va effectuer sa première tournée internationale. Le groupe commence à connaître une certaine renommée, comme en témoigne l'accueil reçu ensuite par Forged by Fire, ça c'est en 2005. Mais chez Firewind, si les albums s'enchaînent à vitesse grand V, eh ben il en va aussi de même pour les musiciens, hein. Il y a des changements de line-up qui sont incessants. Alors ça va quand même constituer un très gros frein dans la carrière du groupe, qui, quand même, loin de se décourager, va sortir The Premonition en 2008, Days of Defiance en 2010, Few Against Many en 2012, il y aura Immortal en 2017. Alors, Immortal, c'est certainement l'album du combo le plus abouti et le plus solide jusqu'à présent, du moins jusqu'à ce Firewind qui vient d'arriver. On sent à partir d'Immortal que le groupe bénéficie désormais de la grosse expérience de son leader Gus J. C'est d'ailleurs dans cette droite lignée, hein, entre hard and heavy classique et metal moderne, que s'inscrit ce 9e opus au titre éponyme. Alors comme d'habitude, on y retrouve les talents de compositeurs hors pair de notre guitare héros grec, mais la seule vraie nouveauté de ce nouvel album réside en fait dans la prestation plus que réussie du nouveau vocaliste, qui est un Allemand qui s'appelle Herbie Langhans. Alors lui, il s'est illustré au sein de nombreux groupes et projets, et notamment il a œuvré quelque temps au sein de Avantasia, l'opéra metal de Tobias Sammet. Alors sa voix légèrement rocailleuse, elle colle parfaitement à l'univers de Firewind. Je trouve qu'il porte haut les riffs et les solos imparables d'un Gus G qui, lui, comme d'hab, est au sommet de son art. Alors juste un petit bémol, peut-être qu'il manque un ou deux titres qui sortiraient du lot pour que l'album soit parfait. Malgré tout, c'est un album réussi. On en écoute un extrait sans plus tarder. Ça s'appelle Rising Fire. C'est Firewind sur Back FM. To see the day, no one is gonna stop me now. Rising Fire sur Bike FM, un extrait du nouvel album de Firewind qui s'appelle tout simplement Firewind. Firewind, je le rappelle une dernière fois, c'est le groupe de Gus G. Gus G qu'on a pu voir aux côtés à un moment donné de Ozzy Osbourne et puis qui officie également en solo, ce qui fait qu'en fait il a toujours un projet en cours. Il est un petit peu comme Mike Portnoy lui, hein. C'est un hyperactif, faut toujours qu'il soit occupé. En tout cas, ce nouvel opus signé Firewind, très réussi. Le précédent était un poil mieux, mais quand même, on peut souligner la prestation du groupe qui n'est plus que grec maintenant, qui est presque international. Alors le morceau qu'on va écouter, il avait quand même un petit côté années 80, hein, je trouve, ce morceau de Firewind. Et justement, bah, les années 80, on va s'y rendre là pour retrouver un groupe qui s'est formé à ce moment-là, qui officie toujours et qui vient de nous sortir un drôle d'objet. Ce groupe, c'est Metal Church. L'objet s'appelle From the Vault. Et avant de vous expliquer pourquoi c'est un peu bizarre, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ce groupe Metal Church, une histoire qui commence à San Francisco en 1980, donc il y a 40 ans. Alors, le guitariste Kurt Vonderhoof initie à l'époque un nouveau projet pour lequel il va auditionner plusieurs musiciens, dont un jeune batteur du nom de Lars Ulrich, qui visiblement fera pas l'affaire et devra se contenter de devenir le batteur de Metallica. Vengeance divine, le projet de Vonderhoof va être un gros flop, donc il va rentrer chez lui à Aberdeen, dans l'état de Washington, en 81, et il va retenter le coup en fondant un groupe qui s'appelle Shrapnel. Shrapnel, ça va devenir en 84 Metal Church, et c'est le groupe qu'on connaît aujourd'hui. Alors, depuis sa création, Metal Church a connu deux séparations. C'est un groupe qui a vu défiler plus d'une vingtaine de musiciens, et à l'heure actuelle, il se compose donc toujours de Kurt Vonderhoof à la guitare. Il est accompagné de son pote Rick Van Den Zandt, aussi à la guitare. On a Mike Howe au chant, on a Steve Unger à la basse et Stett Holland, ex-batteur de Wasp, donc à la batterie. Alors là, on est sur du heavy metal aux accents speed, un peu trash par moment. Pour ce qui est de la discographie, Metal Church va sortir son premier album éponyme en 1984, mais c'est avec le suivant, qui s'appelle Dark, en 86, que le succès commercial va être de la partie, grâce au clip de la chanson Watch the Children Pray, faut pas que j'en enlève un bout, qui va être diffusé assez régulièrement sur MTV. À l'époque, MTV fait la pluie et le beau temps, hein, à la télévision. Donc, c'est un groupe Metal Church qui va être très influent sur la scène heavy thrash jusque dans les années 90, et puis ensuite, bah, le parcours va être un petit peu plus chaotique. Ils vont se séparer une première fois de 94 à 98. Ensuite, ils vont enchaîner 4 albums qui, malgré des critiques majoritairement positives, vont passer absolument inaperçus auprès du public. C'est donc dans l'indifférence quasiment totale que Metal Church va marquer un nouveau hiatus entre 2009 et 2012. Alors, suite à une deuxième reformation, donc en 2012, le combo va sortir le très dispensable Generation Nothing en 2013, celui-là vous pouvez l'oublier, et à ce moment-là, du coup, on est loin d'imaginer le retour en force des Américains avec l'album Eleven, ça c'est en 2016, qui, avec son style à la croisée du heavy et du trash un peu à la sauce New Wave of British Heavy Metal, va rappeler un peu les heures de gloire de Metal Church. D'ailleurs, le groupe va battre le fer tant qu'il est chaud, puisqu'ils vont sortir en 2018 Damned If You Do, un 12e album, tout simplement taillé pour le plaisir des fans. Et alors que ces derniers attendaient de pied ferme de la nouveauté de la part de leur groupe préféré, eh bien Metal Church a fait le pari risqué de sortir un disque qui n'est ni un nouvel album, ni une compilation, mais un croisement entre les deux, car c'est bel et bien ce qu'est From the Vault, qui est paru début avril, puisque en fait, il propose des archives rares, inédites, hein, qui sont issues de la collection de personnel de Kurt Vonderhoof. Alors des archives qui malgré tout sont assez récentes, hein, puisque ça couvre la période 2015-2020. Donc le disque contient 4 nouvelles chansons studio, donc c'est bien, hein, y a quand même un peu d'inédit. Il y a 5 chutes qui sont issues des sessions de l'album précédent. Il y a 3 reprises qui n'ont jamais été éditées. Et puis il y a 4 titres bonus qui avaient été laissés injustement au placard. Sans oublier, pour couronner le tout, 2 titres live qui ont été enregistrés au Japon. Et en fait, ce qui aurait pu tourner à l'abominable fourre-tout fonctionne finalement assez bien. L'album, enfin le disque, on va dire, est assez cohérent. On va d'ailleurs écouter un des titres inédits qui est vraiment pas mal, qui est vraiment sympa. Ça s'appelle Death of the Vine. Et on va découvrir ça tout de suite sur Bike FM. On écoute Metal Church. Metal Church à l'instant sur Bike FM dans l'émission Check Me Load. Vous venez d'écouter le titre Dead of the Vine. C'est un extrait de From the Vault, ce disque qui n'est ni un album ni une compile, mais un hybride des deux et que je vous conseille puisque franchement, ils ont fait un truc assez homogène, plutôt sympathique à écouter. Alors ce seront les fans qui seront évidemment les plus ravis de cet objet, mais pourquoi pas aussi pour découvrir Metal Church, ça peut être aussi une bonne idée. Donc le titre From the Vault. Voilà, c'est sorti le 10 avril, donc c'est dispo un peu partout en numérique, ça doit être même dispo en physique maintenant. Vous savez que les CD, il y a eu quelques soucis pendant la période de confinement puisque les usines ne tournaient plus, donc certains n'étaient pas sortis en version physique, mais ça y est, ça commence à tout arriver, donc même ceux qui n'aiment pas les versions dématérialisées peuvent maintenant retrouver également les nouveautés. On reste dans l'univers du heavy metal, mais on va aller dans des contrées plus symphoniques maintenant, et on va s'intéresser au groupe Almanac, qui a sorti le 6 mars l'album Rush of Death. Alors Almanac, c'est un groupe qui a pris forme en Allemagne en 2015, et c'est en fait le nouveau projet musical du guitariste Viktor Smolski, connu pour s'être illustré au sein du groupe de heavy metal Rage, dans lequel il a officié durant plus de 15 ans, non seulement en tant que guitariste, mais aussi en tant que compositeur et en tant que producteur. Donc suite à son départ de Rage en 2015, Viktor Smolski s'est lancé donc dans son propre projet musical, et voilà comment est né Almanac, dans lequel il est à l'heure actuelle entouré de 3 chanteurs. Ça a un peu évolué depuis les débuts, hein, mais aujourd'hui il y a Patrick Soul, Frank Beck et puis la talentueuse Jeannette Markeva, qu'on avait pu entendre aux côtés de Rage et qui est vraiment excellente. Moi je trouve que c'est sur les 3 vocaliste, c'est elle la meilleure, elle sort vraiment du lot. Et puis faut pas oublier la section rythmique aussi, qui est composée du bassiste Tim Rashid et du batteur Kevin Cott. Alors Almana, c'est du power metal bien symphonique. On a pu découvrir la première production de la formation en 2016. C'était un concept album qui s'appelait Tsar, et comme son nom le suggère, hein, nous plongeait au cœur des grands événements de l'histoire de la Russie. Alors du sanguinaire Ivan le Terrible jusqu'à la révolution de 1917. Musicalement parlant, l'album avait été enregistré avec l'orchestre philharmonique de Barcelone et proposait donc un heavy symphonique classieux mélangé à quelques éléments de world music et puis un peu de musique traditionnelle russe. C'était vraiment très réussi. Un an plus tard, le combo enchaînait directement avec l'album Kingslayer, qui encore une fois s'intéressait à l'histoire, mais cette fois-ci plus particulièrement à des coups d'état et des assassinats marquants. Alors là, côté musique, ce deuxième album s'inscrivait quand même un peu dans la lignée de son prédécesseur, mais apportait malgré tout un aspect bien plus moderne, notamment en termes de son et puis aussi de production. Et donc, début mars, voilà, il y avait la sortie de ce troisième album qui s'appelle Rush of Death. Et cette fois-ci, eh bien, le thème tourne à la fois autour des gladiateurs et aussi des pilotes automobiles. Un parallèle assez bizarre, mais qui finalement est cohérent, du moins dans ce qu'en a fait le groupe. Alors, il faut savoir que pour Viktor Smolki, les gladiateurs des temps modernes, ce sont les pilotes automobiles. Voilà. D'ailleurs, lui, c'est un passionné de sport mécanique, de voitures de course, donc voilà pourquoi il a voulu s'intéresser à ce thème. C'est un peu bizarre, mais c'est plutôt bien traité. Alors là, côté musique, Smolski poursuit sa quête de l'alliance parfaite entre musique symphonique et heavy metal, même si cette fois-ci il s'est quand même un peu moins lâché que d'habitude en matière d'arrangement et d'orchestration. Du coup, Rush of Death, c'est un album qui est bien mieux taillé pour le live que ses deux prédécesseurs, hein, ça va être plus facile et à restituer et aussi à mettre en œuvre, hein, au niveau matériel. Alors certains s'en réjouiront parce qu'il faut admettre qu'un peu moins de grandiloquence, ça nuit en rien à l'efficacité des compos, bien au contraire, ça colle parfaitement à l'ambiance de ce nouvel opus. Et ben, on y revient à ces fameuses années 80, puisque Almanac s'offre même une petite touche 80s avec notamment le morceau Predator qu'on va écouter dans quelques instants. Alors, sans être le chef-d'œuvre du siècle, Rush of Death, c'est un album très agréable, perso je valide, et voici sans plus tarder Predator du groupe Almanac.
Drivers, start your engines!
We'll be right back.
Predator du groupe Almanac, un extrait de l'album Rush of Death paru le 6 mars. C'est le troisième album de la nouvelle formation de Victor Smolski, ex-guitariste de Rage, voilà, qui se fait plaisir là dans ce groupe Almanac puisque c'est lui le seul maître du navire ou de la voiture de course ici en l'occurrence. Vous êtes bien dans l'émission Check Me Load, c'est votre émission métal et on va continuer cette petite sélection de nouveautés. Alors si je vous dis Seattle, vous me répondez Nirvana et moi je vous réponds Pearl Jam. Pearl Jam qui a sorti le 27 mars un nouvel album qui s'appelle Gigaton. Alors cet album là j'avais prévu de vous en parler dès l'émission de reprise et puis il y a eu un tas de choses qui sont venues se mettre en travers de mon chemin pendant la préparation de cette chronique. Voilà, j'ai trouvé d'autres albums que j'ai eu plus envie de vous présenter, donc j'ai un petit peu tardé, mais quand même il faut qu'on en parle de ce nouveau Pearl Jam puisque ça signe le retour au sommet du combo de Seattle quand même. Alors c'est effectivement dans cette ville mythique que Pearl Jam a vu le jour en 90, et si le leader incontesté c'est depuis toujours le chanteur Eddie Vedder, et ben pourtant c'est le dernier à avoir intégré les rangs du groupe à l'époque, puisque ce sont le guitariste Stone Gossard et le bassiste Jeff Ament qui en sont à l'origine. D'ailleurs Eddie Vedder il est même pas du tout de Seattle, lui je crois qu'il est californien si je vous dis pas de bêtises, c'est à vérifier quand même. Alors notons au passage d'ailleurs l'incroyable stabilité du combo, puisque seul le poste de batteur a connu plusieurs changements. Pour le reste, ce sont tous des membres d'origine. Alors, lorsqu'on évoque le nom de Pearl Jam, comme je viens de le souligner, on pense bien évidemment à la scène grunge, cette fameuse scène qui va déferler sur le monde au début des années 90, qui voit le jour dans cette fameuse ville de Seattle. D'ailleurs, Pearl Jam est un des pionniers de ce mouvement, avec Nirvana, Soundgarden ou encore Alice in Chains, pour vous citer que les plus célèbres. Entre parenthèses, il faut savoir que depuis toujours, Pearl Jam, par rapport aux autres groupes que j'ai cités, c'est un groupe qui est très engagé, et en particulier le chanteur Eddie Vedder. Alors c'est un groupe qui est très engagé en politique, envers l'écologie ou dans pas mal de causes humanitaires, donc voilà, c'est l'engagement avec un grand E. Côté discographie maintenant, c'est en août 91, c'est-à-dire à peine un mois avant la sortie du mythique Nevermind de Nirvana, que Pearl Jam dégaine son premier album, c'est Ten. Son titre, c'est un album qui va connaître un succès extrêmement important et qui figure désormais parmi les plus grands albums de rock de tous les temps. Suivront ensuite deux autres disques très marquants dans la carrière du groupe, il y aura Versus en 93 et puis Vitalogy en 94, et puis ben les disques vont continuer à s'enchaîner avec même un succès commercial non négligeable, mais voilà, ben ils vont pas laisser un souvenir impérissable et c'est un peu dommage parce que dans ces disques-là, on trouve de très bons titres. Alors, on avait laissé le groupe Pearl Jam un peu comme ça, de façon mitigée. Du moins, c'est lui qui nous avait un peu laissé sur notre fin avec Lightning Bolt, qui était très en demi-teinte. Ça, c'était en 2013. On avait fini par plus fonder beaucoup d'espoir sur un éventuel retour en grâce du groupe. Eh ben, c'était sous-estimer le gang de Seattle, qui a fait un retour éclatant fin mars avec le gigantesque Gigaton. Et quel plaisir de retrouver la hargne qui menait le groupe à la grande époque du grunge. Parce que mis à part l'étonnant Dance of the Clairvoyant avec ses sonorités électropop, eh ben c'est bien un rock rageur et explosif qu'on trouve dans cet album. Pearl Jam nous envoie ça directement dans les tympans. Alors non seulement la prestation d'Eddie Vedder est remarquable, mais les compos sont inspirés, sont exécutés avec autant de conviction que de talent par des musiciens brillants, des musiciens qui sont aussi doués pour vous balancer des riffs colériques que pour vous envoûter avec des ballades. Côté texte, vous vous en doutez, c'est pour dénoncer la politique de Trump ou encore les dégâts en matière d'écologie, qu'Eddie Vedder a décoché sa plume toujours aussi acérée. En tout cas, vous l'aurez compris, Gigaton, c'est un album extrêmement réussi, c'est peut-être même l'album qu'on attendait finalement depuis la fin des années 90. Et d'ailleurs, en ce moment, c'est un des plus gros succès en matière de rock metal. Vous regardez les albums qui cartonnent le plus, Pearl Jam en fait partie. Voici tout de suite un extrait de ce gigantesque Gigaton avec le titre qui ouvre l'album qui s'appelle Whoever Said. We'll be right back. c'était Whoever Said de nos icônes du grunge Pearl Jam, un extrait de Gigaton paru le 27 mars, un album à découvrir absolument. D'ailleurs, il y a un extrait qui tourne sur Bike FM que vous avez d'ailleurs même pu entendre il y a quelques minutes avant le début de l'émission puisqu'il est passé tout de suite avant. Donc Pearl Jam, retour en grâce pour le groupe de Seattle, c'est un album vraiment à ajouter à vos playlists, surtout si vous aviez aimé les premiers albums du groupe. Ça peut-être être une séquence nostalgie pour vous. C'est du grand Eddie Vedder qu'on vient d'entendre. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Pearl Jam. Je pense que j'en ai dit assez. Et du coup, puisque là on était à Seattle, on va reprendre l'avion direction la France. Il est temps maintenant que je vous parle du groupe que vous pourrez découvrir la semaine prochaine en interview dans l'émission. Alors eux, ils ont sorti un EP le 24 avril. Donc en plus, ils rentrent dans la sélection des nouveautés à vous présenter. Et ce groupe s'appelle Despite the End. L'EP que je vais vous présenter s'appelle Butterfly Effect. Donc, qui est Despite the End ? C'est un groupe qui a été créé en 2019 par le chanteur Vartan Jørgensen. Et le groupe se compose également de Pierre et Ludovic au guitare, de Victor à la basse et de Roy à la batterie. Alors, qu'est-ce que Despite the End ? Eh bien, c'est un métal direct, énergique, avec une dimension émotionnelle très marquée. Le combo revendique comme influence principale System of a Down, Machine Head, ou encore l'ambiance torturée de Slipknot, de Korn. Mais moi, je parie que l'horizon musical des membres de Despite the Earth, il est bien plus vaste que ça. Justement, on demandera à Vartan qu'il nous en dise un petit peu plus dans l'interview qui lui sera consacrée la semaine prochaine. En tout cas, ce qu'on peut affirmer, parce que ce sont les propos mêmes du groupe, c'est que le seul mot d'ordre pour Despite the End, c'est de ne jamais perdre l'équilibre entre technique et mélodie, un contrat qui est totalement respecté dans leur première EP. D'ailleurs, il faut souligner qu'entre la création du groupe et la sortie de cette première production, il s'est écoulé très peu de temps, hein, puisque groupe formé en fin 2019, EP Butterfly Effect paru fin avril, il y a quand même eu une marge de manœuvre assez courte. Une première production qui est pourtant très aboutie, déjà très mature, et qui impose d'ores et déjà Despite the End comme étant une formation extrêmement prometteuse qu'il faudra suivre de très près. Alors, avant de retrouver vendredi prochain l'interview de Vartan, donc le chanteur, pour nous en dire un petit peu plus et sur le groupe et sur l'EP Butterfly Effect, je vous propose un petit avant-goût de cette première production. C'est pour se mettre dans l'ambiance. On va justement écouter le morceau titre Butterfly Effect. Tout de suite, c'est Despite the End et c'est sur Bac FM. Oh,
harshness as the path. We run until dawn.
Le métal très moderne de Despite the End, un extrait de leur album, de leur EP, pardon, Butterfly Effect, avec le titre Butterfly Effect, Despite the End, que l'on retrouvera en interview dans cette émission la semaine prochaine, puisque je recevrai le chanteur Vartan pour nous présenter le groupe et pour nous présenter cette toute première production très prometteuse. Donc voilà, j'ai hâte de m'entretenir avec lui pour lui poser tout plein de questions. Allez, on s'arrête là pour la sélection de sorties du jour et du moment, et on passe au dessert, à la rubrique Sortez Cover, qui conclut chaque semaine l'émission sur un air de reprise. Et aujourd'hui, on va faire un grand écart temporel entre le début des années 70 et le milieu des années 80, puisque j'ai décidé de mettre à l'honneur un groupe que j'ai très peu diffusé dans cette émission. Il s'agit de Hanoi Rocks, avec sa version musclée de la chanson Up Around the Bend de Creedence Clearwater Revival. Alors commençons par le commencement. Creedence Clearwater Revival, c'est donc un groupe de rock américain incontournable dans les années 60, jusqu'à sa séparation en 72. Ils sont originaires de la région de San Francisco. C'est un groupe qui est mené par le charismatique John Fogerty, et c'est un groupe qui va marquer de façon indélébile l'histoire du rock en participant notamment à Woodstock, mais surtout par des chansons qui sont devenues mythiques, comme par exemple Fortunate Son, qu'on entend dans Forrest Gump, j'avais perdu le nom, comme Proud Mary, comme Suzy Q, Bad Moon Rising, Have You Ever Seen the Rain, ou encore Up Around the Bend. Alors sachant que je pourrais encore vous en citer une très longue liste, mais on va s'arrêter là, puisque justement on va s'intéresser à Up Around the Bend, puisqu'on va l'écouter revisiter dans quelques instants. Donc elle paraît vers la fin de la carrière du groupe, en avril 1970, ça c'est pour sa version 45 tours, puisqu'après elle va figurer sur l'album qui s'appelle Cosmos Factory, qui lui sort le 16 juillet de cette même année 70. Alors Up Around the Bend, c'est un morceau très rock, qui flirte même d'assez près avec le hard rock naissant, qui commence à déchaîner un peu sur le monde du rock. La chanson connaît un très gros succès commercial, elle va se classer dans les premières places des charts de pas mal de pays. Alors en France, on est quand même déjà très à la traîne en matière de rock, et Up Around the Bend, malgré tout, elle va grimper jusqu'à la 23e place du hit parade, ce qui est tout à fait honorable. Du fait de son succès, la chanson va très vite s'inscrire dans la culture populaire. On va l'entendre dans plusieurs films, dans plusieurs séries. Bien sûr, elle va être reprise par plusieurs artistes, dont Elton John, mais surtout par le groupe Hanoi Rocks, qui va lui offrir un second succès au milieu des années 80. Alors Hanoi Rocks, c'est un groupe de hard rock glam qui est originaire de Finlande, puisqu'il est fondé à Helsinki en 79. Très bonne année d'ailleurs, autour du chanteur Michael Monroe. Et le tour de force d'Hanoi Rocks, ça va être de s'imposer dans les années 80 au sein de la scène air metal, qui est alors largement dominée par les Américains. Les poids lourds du genre à ce moment-là, bah, c'est les Guns N' Roses, c'est Poison, c'est Skid Row, c'est bien sûr Motley Crue. Motley Crue qui vont devenir les grands potes de Hanoi Rocks, ce qui va d'ailleurs aboutir à un drame. Alors, la reprise de Up Around the Bend par Hanoi Rocks, elle paraît le 11 juin 84. C'est le premier single qui sera extrait de l'album Two Steps from the Move, qui lui va arriver en juillet. À cette époque, Hanoi Rocks, c'est un groupe qui est en plein apogée. C'est le groupe de hard rock finlandais le plus célèbre au monde. Rien ne peut les arrêter. Bah, sauf un accident de voiture qui va causer le décès de son batteur Razzle, un accident qui est provoqué par Vince Neil, le chanteur de Motley Crue, qui ce soir-là était complètement ivre au volant. Alors ce soir-là d'ailleurs, on est le 8 décembre 84, l'album Two Steps from the Move, c'est un carton, tout comme la reprise d'Up Around the Bend, qui tourne en boucle sur les radios rock. Pourtant, eh bien, Hanoi Rocks ne survivra pas à cette tragédie et le groupe va se séparer quelques mois plus tard, en juin 85. Alors il y aura quand même ensuite une tentative de reformation au début des années 2000, mais ça c'est une autre histoire. On va rester en juin 84 avec Up Around the Bend de Creedence Clearwater Revival, revu et corrigé à la sauce hard rock glam par Hanoi Rocks. On va d'abord, avant d'écouter le titre, je vais quand même vous donner rendez-vous vendredi prochain pour de nouvelles aventures métal sur la même station à la même heure. Et je le rappelle, on aura l'interview de Despite the End plus quelques nouveautés. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end. Soyez métal. Salut à tous.